Mesdames et messieurs, bonjour. Le secrétaire général commencera par quelques remarques à propos des séances de travail de ce matin, après quoi il répondra à vos questions. Monsieur le secrétaire général, bonjour à tous. Nous venons de conclure une matinée de travail très productive des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Alliance. Nous avons commencé par un débat élargi à propos de la Russie et des implications à long terme de ses politiques étrangères et de sécurité. Nous nous sommes accordés sur une politique double de défense et dissuasion d'une part et de dialogue d'autre part. Nous sommes convaincus que c'est la bonne approche. Depuis 70 ans maintenant, l'OTAN protège l'Alliance, mais nous assistons de nos jours à des tentatives de plus en plus nombreuses d'intimidation et de déstabilisation, y compris sous la forme de cyberattaques, de velléités de déstabiliser et saper nos institutions démocratiques, de désinformation et de propagande, voire d'utilisation d'armes chimiques, comme à Salisbury. Nous devons continuer de montrer notre solidarité et notre détermination. Nous devons renforcer davantage encore notre résilience et nous devons nous doter d'outils forts et plus performants de lutte contre les menaces hybrides. Pour autant, l'OTAN reste engagée au dialogue avec la Russie. Le commandant suprême allié pour l'Europe, le général Scaparotti, a rencontré le chef d'état-major de la défense russe, le général Gerasimov, la semaine dernière, afin de discuter de postures et d'exercices militaires et de renforcer la prévisibilité et la transparence. Nous continuons de travailler à la préparation du prochain Conseil OTAN-Russie. Lorsque la tension est forte, le dialogue est plus important que jamais. Aujourd'hui, les ministres de l'OTAN ont également abordé l'évolution de la situation en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Nous avons discuté de la situation en Syrie. Tous les alliés ont fermement condamné le retour répété par le régime d'Assad aux armes chimiques. Nous soutenons aussi les efforts de l'ONU visant à apporter une solution politique durable au conflit syrien. Nous avons aussi poursuivi les préparatifs d'une nouvelle mission de formation en Irak, qui sera adoptée d'ici le sommet de juillet, afin d'aider les forces irakiennes à lutter contre le terrorisme, à stabiliser leur pays et à empêcher toute résurgence de Daech. Nous nous sommes accordés aujourd'hui sur le concept d'opération pour cette mission. Ce concept d'opération prévoit un effectif de plusieurs centaines de personnes qui formeront les instructeurs irakiens et mettront sur pied des écoles militaires irakiennes, afin que notre expertise puisse profiter à des milliers d'autres. Nous avons aussi débattu d'un nouveau paquet de renforcement des capacités au bénéfice de la Tunisie et de la mise en œuvre d'un nouveau paquet d'appui à la Jordanie. Nous les soutenons déjà à travers la formation dans divers domaines, tels que les forces spéciales, le renseignement et la lutte contre les engins explosifs de circonstance. Nous allons désormais envisager d'autres domaines de collaboration avec la Jordanie, dans les domaines tels que la sécurité des frontières, le déminage et la réforme du secteur de la sécurité. Notre objectif et d'accompagner la gestion de crise dans la région afin de renforcer la résilience de nos partenaires et ainsi de prévenir les crises pour renforcer dans la foulée notre propre dissuasion et afin de permettre aux pays de la région de faire face aux enjeux à notre flanc sud. Cet après-midi, nous aborderons l'Afghanistan. Notre mission de formation la plus importante et apporte une contribution substantielle à la lutte contre le terrorisme et la projection de stabilité. L'OTAN soutient toute solution politique visant à résoudre les tensions dans la région, en Corée donc. Nous nous félicitons de la réunion qui a lieu aujourd'hui entre les leaders de Corée du Nord et de Corée du Sud. Dans la zone démilitarisée. Les progrès réalisés, les engagements pris visant à résoudre pacifiquement les différends entre les deux Corées sont à saluer. Je serai à présent ravi de répondre à vos questions. Nous allons commencer par le Washington Post. Michael Burton, Washington Post. c'est la première visite de Mike Pompeo à l'OTAN en tant que secrétaire d'État. Il est beaucoup plus aligné sur l'agenda de politique étrangère du président Trump que Rex Tillerson. Et le département d'État, d'ailleurs, est assez content d'avoir de nouveau son mot à dire dans la politique étrangère des États-Unis. Pensez-vous qu'il sera plus facile de discuter avec le département d'État américain suite à l'arrivée de Mike Pompeo?
Welcome. Tout d'abord, j'ai été très heureux de pouvoir accueillir Monsieur le secrétaire d'État Mike Pompeo ici à Bruxelles ce matin. Et il a sauté dans l'avion, littéralement, juste après sa confirmation au Congrès. Il a pu donc s'adresser aux membres du Conseil de l'Atlantique Nord. Quelques 24 heures après sa confirmation, c'est un nouveau record mondial, ce qui montre bien à quel point il est personnellement engagé dans son travail au sein de l'Alliance, et cela n'a fait que reconfirmer l'engagement des États-Unis au sein de notre Alliance par le biais du président Trump. Nous avons eu le temps d'organiser une réunion bilatérale très courte ce matin, qui s'est très bien passée, une réunion très utile. Nous avons pu parler des préparatifs du sommet en juillet. Nous avons parlé de la Russie, pardon, de la dissuasion de la défense. Et nous avons essayé de déterminer dans quelle mesure nous pouvons renforcer la présence de l'OTAN en Irak par le biais de notre nouvelle mission de formation. Je me félicite donc à l'idée de pouvoir travailler davantage avec Monsieur le secrétaire d'État Mike Pompeo. Son expérience très longue et très diversifiée, y compris au sein des forces armées en Allemagne pendant la guerre froide, lui donne, je crois, l'expérience nécessaire pour être le tout premier diplomate des États-Unis. Et j'attends avec impatience de pouvoir travailler à ses côtés.
The Wall Street Journal. Merci. Je me demandais si le secrétaire Pompeo vous a fait part d'une modification de la position des États-Unis en ce qui concerne le dialogue avec la Russie. Et je me demandais si de cette réunion étaient ressorties des propositions concrètes sur la manière d'aborder les activités hybrides de la Russie, qui n'ont pas provoqué d'invocation de l'article 5, mais qui perturbent toutefois divers pays au sein de l'Alliance.
Nous avons parlé de la Russie, effectivement, et notamment des défis qui sont associés à des actes répétitifs de la part de la Russie au fil des ans. Et nous avons essayé notamment de déterminer quelle était la réponse à apporter à la menace hybride. Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut continuer à adopter notre approche de volet avec une défense forte d'une part et un dialogue d'autre part, tout en mettant l'accent sur les activités hybrides. Une grande partie de ce qui a déjà été accompli en matière de dissuasion et de défense est tout à fait pertinent en ce qui concerne les menaces hybride, avec la présence dans l'Est de l'Alliance, meilleur renseignement, meilleure reconnaissance de la situation, avec renforcement des défenses cyber et nos capacités à répondre aux menaces hybrides. Nous continuerons de nous appuyer sur ce qui a déjà été fait pour aller plus loin, et ceci notamment en amont du sommet, pour renforcer notre capacité à répondre à ces menaces qui n'invoquent pas ou qui ne déclenchent pas l'article 5, mais qui constituent néanmoins une difficulté pour les alliés de l'OTAN. Et nous en avons déjà vu un certain nombre d'exemples avec des attaques cyber, avec une ingérence dans nos processus politiques nationaux, avec l'utilisation d'un agent innervant, notamment à Salisbury.
BBC.
La BBC. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Jonathan Marks, BBC. Deux choses. Tout d'abord, vous avez parlé de cette tendance lourde de la Russie à pratiquer la déstabilisation et l'influence. La Russie, par exemple, se rend coupable d'ingérence dans les campagnes électorales. Aux États-Unis, l'exemple est peut-être le plus sérieux, mais le président des États-Unis n'a pas l'air de considérer que c'est un problème grave. Et deuxièmement, d'aucuns considèrent assez étrangement que la Russie est déjà plus ou moins en guerre avec l'Alliance. Comment caractériseriez-vous la position, la politique de la Russie à l'égard de l'Alliance? Est-ce qu'il y a une quelconque vérité dans cette affirmation que la Russie serait déjà en guerre avec l'OTAN?
Tout d'abord, en ce qui concerne l'ingérence dans les processus de politique interne. Effectivement, il y a une tendance qui s'affirme dans un certain nombre de pays, notamment des pays alliés, avec des tentatives d'ingérence dans les processus politiques démocratiques, y compris pendant les processus électoraux. Les autorités américaines enquêtent actuellement sur cette possibilité d'ingérence dans la campagne électorale de 2016 aux États-Unis. Je ne suis pas en mesure de faire des commentaires sur des questions précises qui sont traitées par les autorités américaines, mais il s'agit bien sûr d'un dossier qui intéresse tous les alliés, puisque nous sommes tous concernés par différentes tentatives d'ingérence dans les campagnes électorales et de perturbation du processus démocratique. Nous travaillons avec la Russie pour essayer d'améliorer notre relation. Et nous nous retrouvons dans une situation inédite qui n'est pas la guerre froide, mais qui ne nous permet pas de bénéficier d'un partenariat stratégique que nous avons essayé de construire après la guerre froide. C'est donc une situation nouvelle pour nous. Et il est d'autant plus important de pouvoir faire preuve à la fois de fermeté en envoyant un message fort d'unité, tout en laissant ouverte la porte au dialogue. Ces quelques semaines dernières, nous avons vu à quel point l'Alliance est en mesure d'intervenir, de réagir. Nous avons réagi très rapidement après l'incident de Salisbury. Nous avons fait une déclaration très claire à ce sujet. Tous les alliés de l'OTAN ont appuyé également l'expulsion des diplomates russes à la suite de ces incidents de Salisbury. Et puis, nous avons également affiché une déclaration très claire après l'utilisation des armes chimiques en Syrie. Et donc, dans ces deux cas, nous avons fait la preuve de notre mesure, de notre capacité à intervenir sur un front uni. Cela fait partie de la décision de la défense.
Monsieur le secrétaire général, j'ai une question à propos de l'accord sur le nucléaire iranien. Cet accord est une belle réalisation diplomatique, mais il soulève de nombreuses préoccupations dans la région et ailleurs concernant l'après-2025 ou l'après-2030, c'est-à-dire après la levée des restrictions, et sachant que se pose également la question des missiles balistiques et de l'intervention iranienne dans de nombreux conflits au Moyen-Orient. Que pensez-vous des préoccupations que soulève la présence de l'Iran au Moyen-Orient et ses efforts de développement de missiles balistiques? Et que pensez-vous que sera l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien après 2025, lorsque les restrictions seront levées? Faudra-t-il le remplacer par un autre accord?
L'OTAN s'est félicité de la signature de l'accord sur le nucléaire iranien lorsqu'il a été signé en 2015. Et dans le même temps, nous avons lancé un appel à l'Iran pour qu'il respecte pleinement les dispositions de cet accord. L'accord impose un certain nombre de mesures pour que l'Iran se détourne du développement d'une arme nucléaire. Mais dans le même temps, nous l'avons dit à maintes reprises, cet accord ne vaut rien s'il n'est pas pleinement mis en œuvre. Et nous sommes également préoccupés d'un certain nombre d'activités menées par l'Iran et notamment leurs activités de déstabilisation dans la région, l'appui à des groupes extrémistes, ainsi que la question de la liberté de mouvement maritime. Les alliés se sont notamment préoccupés du programme de missiles balistiques de l'Iran. Il s'agit de thèmes qui ne sont pas pris en compte par l'accord sur le nucléaire iranien et par conséquent, il s'agit de problématiques qu'il va falloir traiter en dehors du cadre de cet accord, tout simplement parce qu'il ne tombe pas sous le coup de cet accord.
Oui, au deuxième rang. Bonjour, je suis du Monténégro. J'ai une question à propos des Balkans occidentaux et la Russie dans la perspective de l'accession de l'ex-République de Macédoine à l'OTAN. Est-ce que vous pensez que la Russie risque de se rendre coupable en ex-République de Macédoine des mêmes efforts de déstabilisation qu'au Monténégro en son temps? Tout d'abord, je pense que ce que nous avons observé, c'est que même si la Russie s'est opposée à l'élargissement de l'OTAN depuis de nombreuses années, voire a quasiment protesté lorsque l'OTAN s'est élargie, nous avons toujours dit et répété que la porte de l'OTAN est ouverte. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'adhésion à l'OTAN se décide chez les candidats, dans les pays candidats, et au sein de l'Alliance. Aucun acteur extérieur n'a le droit d'influencer ce processus. Je me suis rendu récemment à Skopje et j'ai répété une nouvelle fois que l'OTAN reste engagée par la décision de Bucarest en 2008. C'est-à-dire que dès lors que la question du non de ce pays sera réglé, il sera invité à rejoindre l'Alliance. Cette décision reste valable. Des contacts sont en cours pour résoudre la question du non et j'espère que ces négociations seront fructueuses et que l'on pourra avancer. Encore une fois, chaque pays a le droit fondamental de décider de sa propre destinée, y compris de son adhésion à des dispositifs de sécurité. Oui. NRK, Monsieur le Secrétaire Général, nous avons des nouvelles de la Corée. Les choses changent très rapidement. Quelles en sont les raisons, selon vous?
Je crois que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est d'abord de se féliciter de cette rencontre, même si la route est encore longue avant d'envisager une pleine résolution de la crise et des problèmes dont nous sommes témoins sur la péninsule coréenne. Je pense qu'il s'agit d'une première étape très importante. Il va sans dire que la pression qui a été appliquée par la communauté internationale sur la Corée du Nord a été importante. L'OTAN appuie pleinement une solution politique et négociée. C'est pour cela également que nous nous félicitons de la pression qui a été exercée par la communauté internationale, politique, diplomatique, économique également. Et nous avons pu constater ces derniers mois que les Nations unies, le Conseil de sécurité notamment, a réussi à se mettre d'accord sur le renforcement des sanctions. Nous avons pu constater que les sanctions ont été mieux appliquées que par le passé et je suis pleinement convaincue que cette pression internationale accrue a permis de réunir les conditions nécessaires pour le sommet de ce jour. Le Japon a également envoyé un message fort, ainsi que la Corée du Sud, pour que soit maintenue cette pression diplomatique pour trouver une solution politique. Il est important également que ces sanctions puissent continuer d'être appliquées jusqu'à ce que la Corée du Nord modifie véritablement son comportement. Je me félicite des progrès qui ont été enregistré. Et bien sûr que les deux parties aient réussi à se réunir, c'est une première étape, c'est encourageant. Mais il faut être conscient également qu'il y a encore énormément de travail à faire.
Gentleman in the third row.
Oui, monsieur la troisième rangée. Vous avez beaucoup parlé de l'incident de Salisbury. Bon, je suis russe, mais il est important de bien caractériser la situation. Est-ce que vous accusez la Russie d'avoir utilisé des armes chimiques à Salisbury? Est-ce que vous avez des preuves? Et est-ce que vous les avez vues, vous, personnellement, de l'utilisation d'armes chimiques à Salisbury?
We have, been briefed by...
Nous avons reçu des informations des autorités du Royaume-Uni sur les conclusions de leur enquête. Nous n'avons aucune raison de remettre en cause les conclusions de cette enquête britannique. Le fait que le Royaume-Uni travaille avec l'OIAC, l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques, est une bonne nouvelle dans le cadre de cette enquête suite à cette terrible attaque. Il s'agit d'une attaque qui a eu lieu dans le contexte d'activités répétitives et tout à fait risquées de la part de la Russie. Et c'est pour cela que nous avons confiance dans les informations qui ont été fournies à l'OTAN.
Une dernière question, oui, monsieur. Mehmet Solmaz, Daily Sabah. Première question, comment s'est passée votre visite en Turquie, surtout pour ce qui concerne le traitement des questions qui fâchent. Le S-400 et puis le représentant Hutchinson a déclaré récemment que le déploiement de S-400 russe aurait des conséquences importantes. D'aucuns appellent à l'adoption de sanctions contre la Turquie. Comment répondez-vous?
Je me suis rendu à Ankara. Je me suis entretenu avec le président Erdogan, monsieur le ministre Çoğlu, et ainsi que le ministre de la Défense. Des réunions très intéressantes, très utiles. La Turquie est un allié de premier plan et qui continue de contribuer à notre sécurité partagée à bien des égards, notamment dans la lutte contre le terrorisme. En ce qui concerne les infrastructures de base aérienne, joue un rôle très important. Et bien sûr, nous avons parlé de cette question lors de notre réunion à Ankara. Bien sûr, nous avons abordé également un certain nombre de questions où là, il y a des divergences de vues entre les alliés, notamment en ce qui concerne la situation dans le nord de la Syrie. L'OTAN n'est pas présente sur le terrain dans cette région. Mais nous appuyons les efforts déployés par la coalition internationale. Certains alliés sont présents sur le terrain, la Turquie notamment, également les États-Unis. Il a été dit très clairement pendant ma visite à Ankara que des contacts très étroits ont désormais été noués entre la Turquie et les États-Unis pour aller de l'avant de manière la plus coordonnée possible, afin d'éviter des problèmes inutiles dans le nord de la Syrie. En ce qui concerne les S-400, il s'agit d'une décision nationale qui revient aux autorités des pays alliés. Il revient de décider des équipements qu'ils souhaitent acquérir. Ce qui est important pour l'OTAN, c'est bien sûr la question de savoir si ces équipements vont être intégrés dans le système de défense aérienne intégré de l'OTAN. Il est possible que cette intégration soit assez difficile, mais il n'y a pas encore eu de demande de la part de la Turquie dans ce sens. Et puis, bien sûr, nous avons lu la déclaration faite par les États-Unis en ce qui concerne d'éventuelles sanctions. Nous en avons parlé également pendant ma visite à Ankara. Et à nouveau, je me félicite du fait que le dialogue ait été réouvert entre les États-Unis et la Turquie sur ces questions. Merci. La conférence de presse est terminée. Nous ne pouvons plus poser de questions, mais le secrétaire général sera de retour cet après-midi. Merci pour un deuxième point de presse.